C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
RMC.
Si on joue pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. Bien sûr, nous sommes en direct, comme tous les soirs, sur RMC à la radio, sur RMC Sport News, à la télé. L'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Jérôme Bretagne est là, Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Daniel Riolo est là, Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
On a Arnaud Valadon avec nous ce soir, les gars, parce qu'il y a tellement de matchs à suivre là, qu'il fallait quelqu'un de totalement concentré sur les matchs, matchs internationaux, de qualif, matchs amicaux. On fera le point dans quelques instants avec Arnaud. Mais ce soir, l'événement dans l'after, c'est que l'after vous parle à vous, footballeurs amateurs ou footballeurs professionnels hein, qui nous écoutez, puisqu'ils sont nombreux à nous écouter. Ben, ce soir, l'after s'occupe de vos pieds. Pas que de vos pieds gauches, parce que Jérôme Bretagne ne s'occupait que de son pied gauche, mais de vos deux pieds. De vos pieds, vos crampons. Et vous allez voir que vous allez découvrir plein d'histoires. Vous allez voir que les footeux pros ne s'occupent pas forcément très bien de leurs pieds, souvent. Alors que c'est quand même l'outil de travail.
Je confirme.
Jérôme.
C'est vrai, je confirme.
T'allais souvent chez le pédicure, toi?
Ah oui, non. Moi,
t'avais le petit bassin avec les poissons à la maison?
J'étais pas négligent.
Bah, je sais pas.
Mais t'en as beaucoup qui se faisaient surprendre.
Ouais,
c'est étonnant.
Bah oui, c'est étonnant.
Mais bah oui, mais quand tu mets pas ça dans la tête, quand t'es au centre de formation, il y a des choses qui passent et même la structure professionnelle. Alors maintenant ça va mieux, mais à une certaine époque, tout était pas mis. Les pédicures, les podologues n'existaient pas.
On sera avec le podologue de l'OM tout à l'heure qui nous racontera tout ça. Vous allez être surpris, vous allez voir 32-16
maintenant. Le bassin avec les petits poissons, j'ai vu ça qu'en Grèce. Où est-ce que t'as vu ça, toi?
Bon, non, mais ça existe partout, ce truc.
Les villes touristiques, les mecs qui foutent les pieds, mais c'est censé faire quoi, ça?
Bah, je sais pas, je crois que ça te mange les peaux mortes.
Ah ouais, mais j'ai jamais voulu foutre les pieds,
Les sangsues, j'ai déjà fait ça, mais.
Ah bon? J'avais vu les bagues avec les mini poissons, là, qui viennent avec
une blessure avec des sangsues. Ah ouais? Et ça te pompe le sang. Eh bah oui.
Ah oui, c'est pour un hématome, quoi.
Ah ouais, mais ça marche super bien. Sur les grosses béquilles, je peux te dire que ça marche super bien. Ça fait, un petit peu douloureux.
Dans quel club il y avait des sangsues qui étaient gardées au frigo quand vous étiez blessé?
Beaucoup.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Beaucoup.
Des sangsues.
Beaucoup. Oui.
Il y avait un aquarium avec des sangsues.
Bah, des sangsues. Et sangsues.
Dans quel club ça s'est passé?
C'est pas un aquarium.
Dans beaucoup.
Dans l'eau, les sangsues.
Et ouais, déjà, tu les gardes.
Je confonds avec.
Bref, ce sera tout à l'heure.
J'avais l'image du.
Alors, également au programme ce soir, Jacques-Henri Hérault qui parle des finances de l'OM. On va parler de Cavani qui rechute. On va parler de la prolongation de contrat de Tourelle. On va parler des chants homophobes dans les tribunes, de Rabiot. Demain, entretien préalable à un éventuel licenciement. Et puis, les drôles de dames après les matchs internationaux de ces derniers jours. 32-16, hashtag RMC Live, Direct Studio. Vous savez, Direct Studio pour nous envoyer tous vos messages. 32-16 pour nous appeler. Et le hashtag RMC Live. Arnaud, un point sur les matchs en cours. Alors, d'abord, les matchs officiels.
Attends, il faut qu'il mélange pas entre les matchs amicaux et les matchs de qualif, hein.
D'abord les matchs officiels, les matchs de qualif.
Là, faut qu'il soit précis.
Il sait où il a mis les pieds aussi, hein.
L'heure de jeu pour les matchs de qualification pour l'Euro 2020 dans le groupe F. L'Espagne mène à Malte, but de Morata. Juan Bernat est titulaire.
Ça c'est qualif, hein.
Ça c'est qualif.
Donc ça veut dire que l'Espagne n'a mis qu'un seul but à Malte.
Ouais. Alors ils sont un petit peu perturbés. Pourquoi? Luis Enrique n'est pas sur le banc. Il vit un drame familial. Donc c'est son adjoint Robert Moreno qui est là. Ils ont des occasions. Ils ont tiré plus de 13 fois au but, mais ils ont du mal à être précis dans la finition, notamment Morata.
Et Jean Bernard titulaire.
Jean Bernard, il est sorti. Là, il a joué une heure de jeu au poste de milieu offensif gauche. Il n'était pas latéral gauche.
Bon, donc, ça c'est qualif, hein.
Ça c'est qualif. Si tu veux, je fais rapidement le même groupe. La Norvège mène face à la Suède 1-0. La Roumanie mène face aux îles Féroé 3-1. Un ancien de la Ligue 1 a mis un doublé, Claudio Cheru, l'ancien joueur de et d'Angers. Le groupe J.
C'est qualif, ça.
Ça c'est qualif. Ouais. Que qualif, Daniel. L'Italie. Okay. T'as un œil forcément dessus. Ça déroule face au Liechtenstein. 4-0. 4 buts inscrits en première mi-temps. Le Liechtenstein réduit à 10. Sensi pour le premier
truc. Contre qui joue?
Le Liechtenstein.
Ah, d'accord.
Verratti a mis un but, c'est son deuxième but seulement en sélection.
Et tu peux dire quel genre de but il a mis, parce que c'est assez... Attention. Ouais.
Il est à l'angle de la surface de réparation sur le côté gauche. Il rentre sa course, frappe du pied droit, croisé.
Magnifique. Donc une frappe.
Une frappe de
Verratti. De loin.
Bon, de loin, dans la surface, il est dans la surface de réparation à gauche.
De demi loin.
Il a
10 mètres du but.
Non, 15.
De demi loin, c'est déjà loin.
Je pense qu'il est dans la surface, vous rigolez ou quoi?
Non, mais il est à gauche.
Non, mais de demi loin, c'est déjà loin.
Bah, il est à 10 mètres, ouais. Je te dis.
C'est déjà loin,
Non,
lui, c'est loin.
Non, mais c'est surtout
le
l'enchaînement. C'est pas la question de frapper.
C'est un événement.
C'est l'enchaînement qu'il fait. C'est digne d'un grand meneur de jeu. Vraiment.
Donc c'est un événement, un but comme ça. Pour
Moi je pense que Liechtenstein c'est moins bon que la Moldavie. Je pense que la Moldavie débat.
Et je pense que c'est ça, ouais, c'est Guingamp ou Dijon.
Non, la Moldavie c'est
Guingamp
niveau.
Dijon gagne contre Liechtenstein.
Guingamp, Dijon, Strasbourg, ouais, ça gagne. Ouais.
Arnaud, t'as autre chose?
La Bosnie qui mène 2-0 face à la Grèce. Pjanic
c'est toujours en qualif, hein.
C'est toujours qualif. Un peu plus tôt, la Finlande avait battu l'Arménie 2-0 et puis elle.
Un amical?
Non, c'est qualif.
Ah, c'est okay.
C'est qualif. Et puis pour finir, allez, le groupe D, comme ça on est complet. C'est l'heure de jeu, hein. Partout, la Suisse mène face au Danemark 1-0 et la République d'Irlande face à la Géorgie 1-0. C'est qualif.
Alors, et maintenant les matchs amicaux, parce qu'il y a aussi les matchs amicaux.
Ah, les matchs amicaux maintenant.
Maroc-Argentine, vous savez, ce fameux match avec la Fédé marocaine qui avait payé 1 million pour jouer face à l'Argentine avec Messi. Finalement, il n'y a pas Messi, donc le chèque est ramené à 500
000
euros.
Mais il y a un trophée en jeu, là? Non?
Non, il y a pas de trophée, il y a rien. Il y avait beaucoup de vent, c'était à Tanger, beaucoup de tension sur le terrain, un amical mais avec beaucoup de coups, c'était pas très beau à regarder.
Beaucoup de vent surtout.
Ouais. André Correa marqué en fin de match pour l'Argentine, donc 1-0 et puis l'autre match amical, République Tchèque Brésil, 1-1, les Tchèques avaient ouvert le score, une erreur, c'est dur de dire erreur de Marquinhos, mais un ballon dévié devant lui au 35 mètres, ça passe entre ses jambes et derrière l'attaquant va marquer, c'est Firmino qui a égalisé pour le Brésil. Erreur du latéral gauche tchèque, Gilbert, ça va te plaire, il s'appelle Théodore Gebrselassie.
Mais oui, c'est le gars qui faisait l'athlé avant et
il m'a dit. Non, il n'y a aucun lien avec le double champion olympique.
Bah, c'est son fils.
Il y a d'autres matchs amicaux là, parce qu'il y a un Algérie-Tunisie là, c'est un derby.
Oh là ouais.
0-0 après 62 minutes. Première sélection de Oukidja, le gardien de Metz.
Non, Arnaud, il a oublié. Ah ouais. Il a oublié Arnaud le.
Ah, mais non, mais Arnaud, sois complet, là. Il y a la CAN qui arrive. La Côte d'Ivoire a battu le Libéria 1-0, tu l'as pas donné.
Oh là 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 là.
Le Sénégal a battu le Mali 2-1 en amical, tu l'as pas donné.
Je veux pas recommencer en précisant bien les matchs de qualif.
Non, mais.
C'est un peu mélangé. Il y a certains matchs, on n'a pas bien.
Le africain, il l'aime pas, peut-être, hein. Il préfère autre chose.
Ouais, peut-être, c'est peut-être un souci.
Possible, hein.
Vous avez vu que George Weah, il est fantastique, ouais. Il était en visite officielle aux Émirats. Et il a joué aux Émirats. Il a joué dans un club d'Abu Dhabi. Et il s'est pointé à l'entraînement. Donc il est arrivé en survêt. Il a dit salut les gars, je peux m'entraîner avec vous. Le mec c'était là, bah ouais bien. Et hop, il faisait 3-4 dribbles et
il avait pris quand même un peu. Ouais,
ouais, il a pris un peu. Ouais. Mais non, mais quand tu le vois dribbler, il est encore aérien. D'accord. Quoi, c'est étonnant.
Ah ouais.
Les vidéos qui tournent. Ouais. Bon, c'est drôle. Merci Arnaud. Tout à l'heure, on refera des points complets avec Arnaud. Il reste même.
Ah, ouais, sera complet avec sans oublier.
Ça, rien n'est moins sûr
parce qu'il l'a rajouté sur sa feuille. C'est
ouais, là, c'est.
Ouais. Bon.
Écoute, pour une première, ça va, Arnaud. Bon, moi, je plaide l'indulgence. Que t'aies oublié Algérie et Tunisie.
Merci, ouais, Daniel. C'est une première.
Moi, je suis de ton côté.
Il y en a, ils sont arrivés avec beaucoup plus de pression.
Ouais.
C'est vrai.
Ils transpiraient.
Alors dans l'actu du jour les gars, pas mal de choses. On va démarrer par une petite actu PSG, il y a plusieurs trucs liés au PSG. Demain, entretien préalable pour Rabiot qui sera reçu par Jean-Claude Blanc. Donc entretien préalable à un éventuel licenciement, hein, c'est la loi, c'est la législation. Il ne peut pas être accompagné d'un membre de sa famille. Donc
ça va être un problème quand même.
Ça c'est important à donner comme info. En revanche, il peut être accompagné par un représentant du personnel.
Ah, ok.
Ça se fait comme ça. Déjà le délégué du personnel qui t'accompagne et tout. Donc on sait pas si quelqu'un viendra avec lui. Donc en gros, demain Jean-Claude Blanc doit lui expliciter les reproches qu'on lui fait. Mais bon, selon nos infos, il ne devrait pas y avoir de fin de contrat, mais une sanction financière pour Rabiot.
Ça va quand même être compliqué à comment dire. À mettre en place le dossier autour d'une faute grave, puisque c'est ça qui est.
Bah oui. Ouais, mais bon, qu'est-ce qui risque au pire? Je pense que pour le bien des deux, il faudrait que ça s'arrête là, en fait. Voilà. Ça s'arrête. Bien sûr que derrière, il y aura des procédures en place et il faudra confirmer la faute grave et peut-être que Adrien Rabiot récupérera son dû. Mais je pense que même pour lui, pour son image, ça serait bien que ça s'arrête et que.
C'est ce que tu veux dire, ça s'arrête, qu'il revienne plus.
Ouais.
Qu'il se barre.
Ouais, exactement. Ouais. Qu'il soit licencié et que.
Rupture de contrat.
Rupture conventionnelle, monsieur.
Ouais. C'est la meilleure des choses. Et même, je pense que pour son image, qui s'est complètement dégradée encore plus ces derniers temps, il est temps pour lui de reprendre les choses en main.
De respirer quoi, en fait. Un air frais.
Et ouais, pour pouvoir re-signer dans un club, parce qu'on attend ça aussi.
Exactement, donc voilà, plus d'infos demain. Cavani, alors on apprend aujourd'hui, RMC Sport confirme les infos qui sont parues dans Le Parisien, je crois, ou L'Équipe, je ne sais plus, mais enfin bon. Cavani a rechuté avant le match contre Marseille. Donc bon, on le savait pas. Alors, et après, il a déclaré forfait pour la sélection, bien sûr, il n'est pas avec l'Uruguay actuellement. Donc problème à la hanche, hein, pour un tendon de la hanche pour Cavani. Donc le diagnostic de fin avril est un peu pessimiste. Donc il y a encore du temps avant qu'il revienne. Hein,
fin avril. Cavani.
Voilà, fin avril. Ça fera quand même deux mois
d'absence. Beaucoup de blessés au PSG cette année. Entre Neymar, qui, je le disais hier soir...
Une rechute, c'est étrange, parce que quand t'es encadré comme t'es encadré dans un club pro, normalement, ça ne doit pas arriver, une rechute.
Pourquoi ?
Bah, Jérôme, t'as un processus de
aujourd'hui,
de reprise,
t'as
des examens médicaux quasiment tous les jours.
Et tu sais que...
On aura un médecin tout à l'heure, on lui demandera. Parce que là, vous êtes parti dans des explications, aucun de vous deux est médecin.
Bah non, mais bon, j'ai vécu dans un VCA, je sais la pression qu'ils peuvent te mettre.
Pour rejouer plus vite.
Bah tout le monde.
Cavani, personne lui a remis de pression, il n'y a plus rien à jouer.
Bah si, excuse-moi, il était sur le banc quand ça s'est mal passé contre Manchester. Non, mais contre Manchester United, vous me faites rire.
Il est sur le banc.
Et bah oui, mais et il rentre.
Ouais, il rentre à la toute fin.
Tu dis que ça peut avoir joué.
Écoute, je pense que ça en tout cas pas favorisé la cicatrisation et que quand tu te précipites, même si attention, il faut faire confiance aussi au staff médical qui est très compétent au Paris Saint-Germain, mine de rien.
Ah bon, il est compétent. Bah pourquoi à chaque fois qu'il y a un blessé, il part faire le tour du monde pour se faire soigner?
Mais parce que c'est une cellule, cellule qui est en place.
Ça, Daniel,
mais
pourquoi le staff médical
Quoi?
Ça, c'est le club qui envoie les mecs au Qatar.
Mais déjà
au Qatar. Les médecins.
Mais qui gère
du PSG?
C'est bien ce que je te dis.
Mais qui gère l'hôpital au Qatar?
C'est ça à quoi je voulais. Mais non, mais attends, un coup, il va à Barcelone, il va au Brésil, t'as le médecin de la sélection qui vient.
Non, il va au Carnaval de Rio, Neymar, c'est pas pour des raisons médicales.
Non, Neymar, c'est différent.
Neymar. Le médecin de la sélection.
Neymar, c'est différent. Mais peut-être qu'il a, mais non,
mais moi, je ne doute pas de leurs compétences. Je te dis,
c'est comment ça se passe dans le haut niveau.
On fait pas en sorte de leur faire comprendre qu'ils sont compétents et importants. Vu qu'on envoie toujours des mecs partout.
Moi, j'étais pas Neymar, mais moi, je faisais confiance à des docteurs que j'avais eu plus jeunes, et que même si j'avais une cellule, par exemple, quand j'étais à Monaco, eh ben, j'allais toujours voir et me faire conseiller. Et pourtant, c'était pas des graves blessures comme Neymar a pu avoir, ou comme là Cavani peut-être. Mais Cavani, c'est même pas comme Neymar. Cavani,
il est traité. Un process avec beaucoup d'intervenants. Le PSG est un club où il y a beaucoup trop d'intervenants de partout.
Mais quand t'as des stars,
que ce soit pour
Daniel,
les médecins, que ce soit au centre de formation, ils sont 10 pour le diriger.
Mais c'est pas le seul club qui est comme ça.
Il y a trop d'interférences dans les.
Non mais le seul truc que tu peux comprendre, c'est que, sachant que c'est quand même les Qataris qui sont propriétaires de ce club, que au bout d'un moment ils envoient, ils fassent confiance à la cellule qui est en place là-bas au Qatar.
Les médecins qui sont à Paris, il y a qu'à les virer.
C'est Hakim Chalabi qui s'occupe. Oui. L'ancien docteur du Paris Saint-Germain.
Dans ces cas-là, la cellule à Paris, il n'y a qu'à la réduire ou il n'y a qu'à en faire une cellule.
Peut-être qu'ils sont plus tranquilles quand ils vont là-bas. Tu sais pas.
Et moi, je pense
après, il paraît que leur centre médical au Qatar, il est le plus performant du monde.
Mais c'est pour ça. De toute façon, ils les envoient pas pour prendre le soleil. Hein.
Bon, alors, info suivante. Mercato.
Il y aura quand même eu beaucoup de blessés au PSG cette année. Neymar a très peu joué. Cavani, pareil, il va nous donner l'impression d'avoir fait une saison.
Verratti a été blessé
très
aussi.
Très bizarre. Bon, Verratti, c'est tout le temps, ça. C'était avant, après, c'est, voilà.
Allez, une petite pièce.
Kurzawa a été blessé.
Donc, la cellule médicale, qui est faite de plein d'experts magnifiques et tout, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de blessés et que les mecs sont pas en top forme quand il faut être en top forme.
Moi, je parle en connaissance de cause, je connais la plupart des médecins qui sont au Paris Saint-Germain.
Oui, mais eux, ils travaillent pas. Et visiblement, on leur fait pas confiance à eux.
Alors,
c'est ça
suivante.
Que je voulais dire.
On passe à la suite.
Je voulais pas dire
gars.
Qu'ils étaient pas bons. Je veux dire qu'à eux, on leur fait pas confiance.
Ouais, mais
je pense que les mecs en souffrent et qu'au bout d'un moment, ils se disent, bon, si on nous fait pas confiance parce qu'on envoie toujours les mecs à droite à gauche et que tout le monde a son mot à dire sur tout. Et je te dis que ça, c'est dans tous les domaines du club. C'est pas qu'au médical.
Non, mais
c'est à la formation où il y a 1000 boss pour 3 postes. C'est partout.
Ouais.
À tous les étages du club, il y a beaucoup trop de personnel.
Info Mercato concernant le PSG. Alors, vous savez que le PSG est sur Ander Herrera, qui est en fin de contrat à Manchester United. Nouveau joueur là qui sort du chapeau, il s'appelle Florentino Luis. Donc, il joue à Benfica. RMC Sport confirme les infos du Parisien du jour. Donc, c'est un gars qui est repéré par Antero Henrique, milieu défensif ou défenseur central, 19 ans. Voilà, le gars a une clause à 60 millions quand même.
Ah, quand même.
Il joue
Benfica. Florentino Luis, donc là, Paris négocie.
Nico, il doit le connaître.
Bah ouais, Nicolas Dalcoët, on pourra lui poser la question. Donc voilà l'info du jour. Et puis pour finir sur le PSG,
sur le transfert, hein.
Nico?
Non, pas Nico. Enrique?
Ah ben, Jérôme.
Ah non, je sais pas. Bah, tu peux avoir les infos. Hein,
nous, on n'a pas d'infos en l'occurrence.
On n'a pas nous sur les croquages, on n'a pas.
Non. Et puis on parle également
de PSG. Bien croqué sur Paredes déjà que.
Ah bon? Forcément.
Ah ça, je sais pas, Jérôme, c'est toi que ça regarde.
Hein. Non non. Bah.
On a également.
En disant un petit peu plus, tu veux peut-être avoir un procès de plus. ça peut être utile.
De plus, pourquoi? J'ai déjà des procès moi.
Non, tu veux pas avec ton ami là, ça va pas se terminer.
Quel ami?
Ah ok, pardon.
J'ai pas d'amis, Daniel.
T'as nous quand même.
Ah non, vous êtes mes. Ouais, je bosse avec vous, mais.
Attends. Bah merci, c'est sympa. Non, mais...
Bah ouais, bah vous le savez quand même.
Oui, oui.
Bon. Thomas Tourelle va prolonger. Autre info importante. Bon, c'est en négociation, mais il pourrait prolonger jusqu'en 2021. C'est en très bonne voie. Voilà.
Pas très étonnant, on savait qu'il aurait une deuxième chance malgré l'échec de cette année. Maintenant, prolongation, pas prolongation, si l'année prochaine ça tourne mal, je pense qu'il partira. Hein.
Alors, dans l'actu du jour, on voulait également réagir à une interview que Jacques-Henri Hérault, là on parle de l'OM, a donnée au Dauphiné Libéré. Il parle notamment des finances du club et du déficit important de l'OM, hein, près de 80 millions d'euros.
Comment il choisit le Dauphiné et pas la Provence?
Peut-être il s'est dit, de ça.
Ouais.
Oh, c'est peut-être une stratégie de com.
Si je prends un journal sérieux pour parler un peu d'oseille, toutes ces choses-là.
Ou alors, peut-être que le journaliste du Dauphiné est perspicace et était là au bon moment. Je sais pas comment ça s'est goupillé, cette histoire. En tout cas, on lui dit, bah voilà.
Quitte à faire dans la PQR, pourquoi il fait pas la PQR de chez lui, quoi?
Bah, il l'a fait souvent, la PQR de chez lui, je pense.
Là, il me semble que c'est une interview qui est un peu importante.
Bon, en tout cas, il se trouve que c'est au Dauphiné Libéré, qui est effectivement pas un journal de Marseille, mais pas très loin. Donc, pour quelle raison ce déficit est-il si important, lui demande-t-on? Il minimise un peu, quoi. Il dit, bon, on veut équilibrer, mais la quasi-totalité des clubs aujourd'hui sont pas à l'équilibre, gagnent de l'argent en vendant les meilleurs talents. Voilà, donc on pourra sceller des joueurs. Voilà. Il y a quand même des chiffres économiques, là, économiquement très inquiétants.
Oui, c'est vrai.
Et Hérault semble pas alarmé, quoi. Il dit voilà, concernant la masse salariale trop importante, j'en parle pas tant que le mercato est pas fini.
Oui, ah bon, c'est quand même voilà. à la lecture.
On n'accentuera pas le déficit, dit-il, évidemment.
Entre la lecture de l'interview, ce qu'on sait des comptes de l'OM, c'est franchement pas réjouissant. Tu disais inquiétant. Oui, après inquiétant, ça dépend pourquoi. Si on considère que l'OM doit être un club ambitieux et qui doit viser les premières places, ça peut poser problème. Si c'est un club qui doit pour la 150e millième fois se reconstruire en recommençant une histoire avec des nouveaux joueurs et tout, bon ben ok, c'est pas inquiétant parce que tu sais que tu vas reconstruire. Thauvin partira, c'est le joueur qui, je pense, a la plus grosse valeur marchande. Balotelli, je vois pas bien comment il pourrait rester avec son salaire. La masse salariale, elle est énorme.
Si tu te sépares,
elle est énormissime beaucoup. À Marseille, elle est beaucoup trop importante. En tournant autour du pot, en ne répondant pas à toutes les questions comme il le fait, on comprend quand même que il y a de vrais soucis et qu'il y a eu des erreurs. Mais ça, moi, quand j'avais dit qu'investir comme ils l'ont fait sur Payet, c'était une énorme erreur, surtout d'un point de vue financier, ce que ça leur coûtait par rapport à ce que ça pouvait rapporter, et notamment par rapport à une éventuelle revente, parce qu'aujourd'hui, Payet, il vaut zéro. Hein. À part si, un club exotique veut mettre de l'oseille dessus, je vois pas où il va le vendre. Quoi. C'était 30 millions plus un salaire de malade, beaucoup, beaucoup trop cher. Je parle pas de Strootman, qui a un salaire de malade, et ça aussi c'est compliqué à gérer. La plus grosse difficulté pour l'OM au mois de juin, ça va être la gestion financière. Quand à côté de ça, tu sais qu'il faut qu'ils reconstruisent une équipe et qu'ils trouvent des nouveaux joueurs et si possible des jeunes joueurs en imaginant de la revente, va falloir qu'ils soient meilleurs qu'ils l'ont été sur les dernières années au niveau du recrutement. Et s'ils ratent la Ligue des Champions, et ce serait franchement un sacré exploit d'aller accrocher le podium vu la situation dans laquelle ils sont là, sans la Ligue des Champions et les 20 à 30 millions qui rentrent dans les caisses dans ces cas-là, c'est pas très bon. Et ça, alors après, évidemment, ils cirent dans tous les sens les supporters, l'ambiance, machin, ceci, cela, ouais. Sauf que ils sont pas cons, les supporters, à un moment, ils vont bien comprendre que la gestion d'Héro, elle a été quand même plutôt pas bonne.
Alors il se défend, hein. Il dit moi j'ai pas besoin d'un actionnaire pour savoir qu'une entreprise doit afficher des finances à l'équilibre.
Oui, enfin, ça c'est voilà. Là la défense quand même.
Voilà. Donc bon.
Non, il peut se défendre Gilbert, mais c'est vrai que Daniel a raison. C'est inquiétant pour l'Olympique de Marseille, mais après on le savait, hein. On le savait que quand l'actionnaire, le propriétaire a acheté ce club, qu'il avait une enveloppe, il s'en est pas caché. Aujourd'hui il y a 190 millions qui ont été dépensés.
C'est énorme. Ouais.
C'est incroyable. Surtout.
C'est qu'on se demande un peu.
Ouais,
presque.
Exactement. Non, mais c'est après quand t'investis autant d'argent, tu te dis bon bah ok, il y a de la valeur marchande et que si on a un souci, si on a besoin d'argent, on va vendre. Mais aujourd'hui, la valeur marchande la plus importante, c'est Thauvin. Mais Thauvin, est-ce que Flo, voilà, Flo, je l'apprécie, c'est différent. Quand t'as connu un joueur très jeune et tout ça, je
là,
le
suis.
Pas
sûr que là,
et je suis.
Il attire un grand club qui va mettre un paquet d'oseille. Hein.
Non, mais moi, je suis fier de ce qu'il fait. Vraiment, il a tiré le maximum, mais. Franchement, au d'un moment, est-ce que il a les moyens de s'imposer dans un très grand Europe, c'est-à-dire dans un très grand.
Le vendre bien
surtout,
à
est-ce
club
que
riche.
Le grand Europe va s'intéresser
non,
à toi?
Exact. Non, mais c'est ça.
Je pense qu'on en est un peu loin là quand même.
Un club anglais de.
Non, non,
mais
en Angleterre,
tableau,
il a connu déjà.
Ils ont de tableau, lui, pas sûr qu'il veuille.
Non, mais déjà.
Thauvin, ça l'intéresse pas de faire ça. Lui, il veut la Ligue des Champions.
Il a été à Newcastle.
Déjà, ça va. Il connaît l'Angleterre. Il sait que ça s'est mal passé. Il avait qu'une envie, c'était de revenir à Marseille. Alors on sait comment il est parti, qu'il est très attaché au club. Il y a ça aussi, il y a ce facteur-là. Il est très attaché à l'Olympique de Marseille. Donc peut-être que il va s'entêter encore à se dire bah écoute, cette année on a raté la Champions League, je veux encore rester. Donc si il est dans cet état d'esprit-là,
qu'il pousse un peu dehors aussi.
Oui, mais
parce qu'il y a besoin de l'oseille. Comme
d'accord.
C'est le seul
mais alors,
qu'il peut rapporter.
Alors donc si tu le pousses dehors, ça veut dire que tu t'estimes avoir une offre à 60 millions d'euros.
Mais peut-être qu'ils vont prendre
millions.
Conscience que 60 ils les auront pas et que 50 ils vont dire ok. Sauf qu'après Thauvin qui avait envie de jouer à la Ligue des Champions, si c'est un club, c'est si c'est pas un club anglais, qui c'est le club qui va mettre 50
et c'est ça,
pour
c'est
lui
pour ça, c'est ce que je te dis. Donc moi même compliqué. 50, si c'est pas un club anglais parce qu'ils ont des moyens illimités, je suis pas sûr que les offres arrivent.
Un club comme l'Atlético par exemple.
Un club comme l'Atlético Madrid.
Mais déjà pour
Par rapport à la structure du club, ils ont déjà investi. Ils ont investi combien sur Thomas Lemar? 70 millions.
Ouais.
Bon, pour l'instant, Lemar, il n'arrive pas trop à se faire.
Non, mais d'accord. Mais bon, ils vont pas le mettre dehors. Ils vont insister. On connaît la stratégie de Diego Simeone. Est-ce qu'il veut un joueur comme Flo Thauvin pour apporter un plus à son équipe? Je suis pas sûr.
Ouais.
Donc, voilà, ça réduit. Barcelone, Real, non.
Naples.
Naples, ils mettent 60 millions sur la table, 50
non.
millions.
Bah, non.
Moins.
Bon, on va prendre Christophe au 32-16 pour réagir à ces infos marseillaises là. Supporter de l'OM, Christophe, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Christophe, quand t'entends Héro qui défend son bilan financier là, pourtant largement déficitaire, qu'est-ce que t'en penses toi? Ça t'inquiète ou pas tant que ça?
Ça m'inquiète, je sens surtout qu'il essaie de sauver sa place aussi, je pense, parce que après il doit aller voir le boss américain et de lui dire bon. La troisième place, c'est mort. Parce qu'on a fait, quand même 6 mois dégueulasses, faut dire ce qui est. Mais là, du coup, je me félicite de pas avoir viré mon entraîneur parce que ça remonte. Ben, heureusement que ça remonte. Si on faisait la même fin de saison que le début de saison, ben, je sais pas, on serait pas loin de la Ligue 2, faut dire ce qui est, quand même. Donc, après, je pense que là, l'année, elle est, non seulement elle est ratée, faut dire ce qui est, mais elle est dégueulasse parce qu'il y a raté, parce que t'as des blessures, tu vois, t'as perdu quelques matchs. Mais là, on a été ridicule en Europe, on a été ridicule en Coupe de France, on a été ridicule en Coupe de la Ligue. On n'a encore pas gagné contre un gros cette année, on a battu Monaco, mais on s'est rendu compte cette année que c'était pas un gros. Donc, en fait, est-ce qu'il y a eu une évolution entre la saison dernière et cette année? Pour moi, c'est non. Est-ce qu'on a vu un plan de jeu? La réponse pour moi, c'est non. Est-ce que des joueurs sont meilleurs que l'année dernière? Pour moi, c'est non. Peut-être à part Camara, mais c'est peut-être.
Ah oui, il y a peut-être une petite valeur.
Camara, mais bon, Camara. Oui, bien sûr qu'il a une petite valeur parce qu'il fait des bonnes choses.
De quoi tu vas pas vendre un môme de.
Bon après, ils ont bien.
Non, mais Camara, ça se vend pas, ça se garde.
Ouais, exactement.
Tu dois pas le vendre. Tu dois le garder, bien sûr, parce que je pense que le truc de l'OM, c'est de garder, peut-être Camara et Lopez. Je pense que Camara a peut-être un peu plus de potentiel que Lopez. Mais je pense que Thauvin, moi je pense que son départ il est quasiment acté, que ce soit pour Thauvin ou pour l'OM. Mais après la question c'est où et qui va mettre autant d'argent.
La question c'est surtout combien, parce qu'il est au moins 50.
Ah ben oui,
l'OM attend au moins 50 plus bonus.
Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait.
C'est ça. Hein. C'est ce qu'on disait.
Bah, surtout quand t'as vendu
que Thauvin l'année dernière. Mais bon, après, je dis pas qu'il fallait. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il est clair que Thauvin, en fin de saison dernière, pouvait certainement atteindre 70. Et que là, sa valeur aura probablement fortement baissé. Quoi.
Merci Christophe.
Allez, bonne soirée messieurs.
Salut Christophe. Et n'oubliez pas, quand Franck Marcourt est arrivé, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, avait annoncé la couleur.
Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous vous demandons.
Bah, il en a mis des
sous. C'est quand même fantastique. T'as vu qu'il dit, allez, vas-y, envoie l'oseille.
Il a déjà mis 200 millions.
Exactement.
C'est ça.
Dans quelques instants, on est de retour avec Arnaud pour tous les scores. On parlera de la polémique du jour concernant les chants homophobes dans les stades. Et puis les drôles de dames avec nous pour reparler des matchs internationaux du week-end et du début de semaine, bien sûr. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là bien sûr, Jérôme Rantaine, Daniel Riolo et Arnaud Valadon qui nous fait un point sur les scores des matchs officiels et amicaux.
Allez Arnaud, t'en rates pas cette fois parce que...
Qualification, l'Espagne qui mène 2-0 dans son groupe F, qualification pour l'Euro 2020.
But doublé de Morata.
Doublé. Voilà,
je peux faire l'assistant d'Arnaud ou pas?
Vas-y, essaye.
Non, je te laisse.
L'assistant ne perturbe pas le titulaire.
2-1 pour la Norvège face à la Suède. On est dans le temps additionnel partout. La Roumanie mène face aux îles Féroé 4-1. Donc ça, c'est
pardon, il y a 2-2 entre la Norvège et la Suède.
Oh là là.
Non, Arnaud, là, c'est pas
le jeu. On peut pas aller plus vite que la musique, hein.
Ah mais tu peux pas aller moins vite que les buts aussi. Tu vois
Jérôme, c'est quelque chose. Dès le deuxième résultat, il est perdu. Arrête de lui mettre la pression.
2-2, but de Kesson, voilà le Suédois, Norvège qui menait 2-0. Le groupe de l'Italie mène 6-0, ça déroule face au Liechtenstein avec un but de Verratti. Il y a Kane et Pavoletti qui ont ajouté des buts. Il faut remonter à plus de 1960 pour voir une victoire de l'Italie dans un match officiel, 6-0. Donc ça faisait très très longtemps.
Et c'est pas le genre dans la maison. Ouais.
Dans le même groupe, la Bosnie et la Grèce, 2-1 pour la Bosnie face à la Grèce. Et un peu plus tôt, la Finlande s'est imposée en Arménie face à Mkhitaryan, 2-0. Et le groupe D, la Suisse mène face au Danemark, 2-0. Chacun a marqué. Et l'Irlande.
Ah non. Il y a 3-1.
Bon, ça s'actualise.
Ah non mais
attends, vous lui avez filé un ordinateur défaillant, le pauvre. Moi je le défends.
Merci Daniel.
Il a un ordi qui marche pas. Aidez-le, bon sang. Il n'arrive pas à actualiser.
3-1 avec Mbolo qui a marqué pour la Suisse.
Et Bosnie-Grèce, il y a 2-1. Il y a 2-2 maintenant.
Bosnie-Grèce.
Arnaud !
Il y a 2-2, Arnaud. Oui. Oh là là là.
Oui. J'ai pas le temps de mettre sur ma petite fiche, tu sais, c'est à l'ancienne. Ça va trop vite pour moi. Oui, il y a 2-2.
Et Roumanie, le Féroé, 4-1.
Ah, il l'a dit.
Non. Ah, tu l'as dit ça?
Il ouais. 4-1.
Ouais. Ouais. Ouais, les matchs amicaux.
1-0 pour l'Argentine face au Maroc avec un but de Correa. Le Brésil a retourné la situation. 2-1 face à la République tchèque. C'est Gabriel Jesus et Thiago Silva a récupéré le brassard de capitaine quand Casemiro est sorti.
D'accord.
Algérie, Tunisie. Moi, j'ai 1-0.
Il y a 3-1 pour le Brésil.
Ah, tu vois, il y a 3-1. Ah, j'ai pas le temps, tu vois, de lire ma feuille en même temps, Gilbert. Mais tu es là pour corriger, c'est bien. 3-1. L'Algérie, j'ai 1-0.
Oui, c'est bon.
Tunisie, et Boumedja qui a marqué pour l'Algérie, et Koukidja titulaire, tu l'as précisé, Sliti côté tunisien. Et puis le Sénégal a battu le Mali 2-1, Mané et Konaté, le joueur d'Amiens en fin de rencontre. La Côte d'Ivoire a battu le Libéria, un pénalty de Kodja, l'ancien de la Ligue 1 face au Libéria, donc 1-0. Et
ah oui, Kodja, tiens, très bien, il avait été élu meilleur joueur de Ligue 2. Il était parti en Angleterre, on l'a perdu de vue.
Non, on veut pas, mais je m'en souviens pas.
Kodja.
Jonathan Kodja.
Ouais, j'ai joué avec lui à Caen.
Ah ouais? Il était pas mal ce joueur.
Ouais, il avait beaucoup de vitesse.
Formé au stade de Reims. J'attends Kodja. Nigeria, le Nigeria. Le Nigeria,
essaye de se rattraper en glissant une info supplémentaire, Arnaud, là.
Merci, Arnaud. C'est ça, l'after. Hein. C'est, tu te fais bisuter ce soir. Comme ça.
Il va revenir ou pas?
Bah oui, on n'est pas comme
ça. Il y a une troisième intervention?
Bah oui, quand les matchs seront finis.
Bon, la troisième, tu l'as fait sans faute, Arnaud. C'est ton défi, Daniel. Ton défi.
Normalement, ça
c'est la troisième.
Plus,
hein. Bon, y a rien, c'est
tous les matchs sont finis, là.
Ouais, normalement, tu devrais y arriver.
Il y a rien qui doit t'échapper.
Bon. Justement, match international.
Même le mec qui a joué en national chez nous, on veut le savoir dans quelle sélection il est.
Match international égal drôle de dame. On va accueillir Julien Laurence, mais juste avant Julien Laurence, j'aimerais quand même qu'on réagisse à la petite polémique du jour. Vous avez suivi les premières déclarations de Roxana Maracineanu, ministre des Sports, qui explique qu'elle ne veut plus entendre de chants homophobes dans les stades. Alors je ne sais pas si elle est souvent dans les stades, Maracineanu, alors si c'est un sujet qu'elle a choisi de traiter maintenant, alors qu'elle sait très bien que depuis les années ça existe, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, Nathalie Bois de la Tour, la présidente de la Ligue, qui est très engagée sur ce dossier. Elle était d'ailleurs à la LICRA il y a peu. Elle rencontre les supporters sur le sujet ce matin. Et donc, elle a fait aussi une déclaration qui a créé la polémique, puisque elle a utilisé un terme bon, qui n'est peut-être pas le bon, mais enfin, elle a parlé de caractère folklorique pour ces chants. Derrière, les associations homophobes se sont emparées de ça en disant que eh bien, le mot relativise et tolère l'homophobie. Voilà, petite polémique du jour. Alors, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'en faire une polémique, messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, les chants homophobes, c'est totalement à condamner dans les stades, bien sûr. Maintenant, la culture ultra est faite de chants depuis des années et des années. Quel est votre avis sur cette histoire?
Plusieurs choses. D'abord, je savais que très vite, elle dirait beaucoup de bêtises, la nouvelle ministre des Sports. Je pensais pas que ça irait aussi vite que ça. Donc là-dessus, je suis pas étonné. On peut nommer tous les ministres des Sports de la Terre.
Enfin, bêtises dans quel sens, Daniel? Parce que t'as l'impression qu'elle découvre la Lune, en fait, c'est ça?
Oui. La façon dont elle le dit, la façon dont elle débarque. Bon, on a une tendance, nous, chez nous, à nommer des ministres des Sports qui, après, ça les empêche pas de travailler, de connaître les dossiers. Marie-George Buffet, on l'a tous connue. Elle connaissait très peu le sport, encore moins le foot. C'est probablement une de celles qui s'en est le mieux tirée. Il y a des sports qui sont importants dans un pays d'un point de vue culturel. On a pour beaucoup l'habitude de nommer des ministres des sports qui ne connaissaient absolument rien au sport qui est le plus populaire dans le pays. En l'occurrence, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans un stade, ou en tout cas qu'elle ne savait pas comment ça se passe. Bref, ça n'empêche pas, même si c'est la première fois qu'elle y va, de trouver que quelque chose la choque et d'estimer que ça pourrait être mieux. Si elle a envie de le dire, après tout, là-dessus, ne lui jetons pas la pierre. Qu'elle nous explique éventuellement comment elle compte changer ça quand 1000 personnes en même temps font un chant pourri, pas pourri, enfin chacun l'estime un. Mais bon, la réponse de Bois de la Tour, parce que c'est ça qui est le plus important. D'abord, quand elle dit folklore, la définition, je l'ai sous les yeux, science des traditions, des usages et de l'art populaire d'un pays. Moi, je pense que ça peut correspondre. Sauf que la façon dont c'est entendu, c'est folklore égale festif. Folklore égale pas grave. Folklore égale le tambourin au coin de la rue dans la fête de la musique, tu vois. Voilà. Peut-être qu'elle aurait dû dire que c'est partie intégrante, ces chants-là, d'une culture. Parce que c'est une vérité. C'est culturel dans le football. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. J'avance en disant simplement que le constat est que c'est culturel. Après, c'est pas parce que quelque chose est culturel dans un pays, un acte, qu'on peut pas le dénoncer ou qu'on doit penser forcément que c'est bien. Ça, c'est
exemple, la corrida, c'est culturel. Certains estiment que c'est à bannir et d'autres estiment qu'il faut conserver. Bon.
Par exemple, voilà. Par exemple. Donc, ça l'est effectivement. Maintenant, parler d'homophobie, parce que c'est quoi le truc? C'est enculé, ces trucs-là?
Oui, bah il y a d'autres chants, on va pas chanter.
Et en quoi c'est homophobe? Pourquoi? C'est parce que t'assimiles le mec à un homo en lui disant ça? Alors qu'en fait, c'est une insulte de base.
Non, mais Daniel, bon, attention.
Non, mais à partir du moment où t'as des assos qui se mettent dedans.
Que des gens se sentent choqués. Moi, je peux tout à fait le concevoir, oui. Que ce soit choquant.
Non, mais en fait, il faut être choqué.
Il faut respecter aussi
Il faut être choqué par le caractère insultant. Pas par le côté homophobe, parce que je crois pas que ce soit au moment où le mec hurle ça, un acte d'homophobie, c'est une insulte, c'est de la vulgarité, de la grossièreté, tout ce que tu veux. Mais je pense que quand le mec il fait qu'il est de Marseillais, en gros, il est pas en train de le traiter d'homo ou de considérer que l'homosexualité c'est quelque chose de pas bien. Je me semble pas que ce soit exactement
ça.
Quoi.
Ensemble, c'est pas ça.
Voilà, c'est plus une sale insulte. Voilà. Après, oui, elle a le droit de considérer que c'est pas bien. Moi-même aussi, on peut considérer que les insultes. Et quand on dit que c'est culturel, c'est que, ouais, c'est lié au foot, parce que dans le rugby, c'est d'autres formes d'insultes, mais il y en a aussi. Toi, tu vas plus dans les salles différent. De hand que moi. Est-ce que t'entends ça dans les salles de hand?
Non, pas trop.
Non, attends, c'est pas quelque chose. Non. Alors moi, dans le basket. Dans les salles, t'entends pas genre de truc, donc.
Non, c'est très foot quand même, faut le reconnaître.
Non, mais c'est très foot.
C'est ce que je suis en train de dire.
C'est très foot, pourquoi?
C'est ce que je suis en train de dire. C'est culturel, maintenant.
Moi, je veux bien, elle débarque là, t'as raison dans ce que tu dis, mais elle débarque, bien sûr.
Tu parles de la ministre, hein.
Ouais. Alors, oui, je parle de la ministre parce que moi, ça touche mon sport et à l'arrivée encore, on va taper sur le football. Je dis pas gratuitement parce que bien sûr que ça peut choquer quand t'es pas habitué à venir dans un stade. Et apparemment, elle devait découvrir le Parc des Princes. C'est la première fois qu'elle y mettait les pieds.
Enfin, c'est dans tous les stades. Hein.
Non, mais elle est jamais allée au Stade Vélodrome. Donc il faut qu'elle aille aussi au Stade Vélodrome se rendre compte de l'animosité. Non, mais entre eux, parce qu'elle, elle reproche les cris, les chants contre l'Olympique de Marseille des supporters parisiens. C'est ce que j'ai lu. C'est ça qu'elle met en avant. Donc,
non, mais parce qu'elle dit ça parce qu'elle était là ce soir-là. Si elle avait été à Lyon, dans un Lyon Saint-Étienne, alors elle dit
ça aurait été sur Saint-Étienne. Bien sûr, non, mais Saint-Étienne. Et ça, je te rejoins. Donc, il faut déjà que elle se mette, parce qu'elle est ministre des Sports. Donc, même si elle connaît rien au football, et ben, au d'un moment, avant de parler, mets-toi dans ce que c'est le football, ce que c'est le supporterisme, la violence. On l'a dit, et je pense qu'ils se battent pour ça, qu'il n'y ait plus de violence. Et il y en a de moins en moins, et tant mieux, parce que ça devenait grave au d'un moment. Qu'il y ait un combat là-dessus et que ça la touche encore, oui, il faut insister. Mais de l'autre côté, quand il y a une rivalité entre deux clubs dans le football, déjà, c'est dans la culture du foot, c'est comme ça. Le football est un sport populaire. Mmh. Ça touche toutes les classes, mais toutes les classes. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres sports que tu viens de citer, mine de rien.
C'est vrai, Jean, mais question est de savoir, est-ce qu'on souhaite...
Daniel,
moi on a le droit oui, attends, on a le droit de considérer qu'à partir du moment où tu combats les actes violents, physiquement violents, que tu fais en sorte qu'il y ait plus de banderoles insultantes, et des fois il y avait des banderoles qui étaient insupportables. Tu peux aussi.
Mais il y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup de second degré. Les gens restent sur le premier degré aussi. Et dans les champs, bien sûr que ça peut choquer.
Moi j'entends parfaitement si elle vient, la ministre ou Nathalie Bois-de-la-Tour, dire ce serait bien qu'on n'ait plus ce genre de champ. Mais je l'entends. Une fois que j'ai parlé du constat culturel.
On peut aller au stade depuis 20 ans et être toujours choqué 20 ans après parce qu'on entend, hein.
Donc, en fait, la question est.
Ah bon?
Chacun ressent
les choses. Alors, l'auditeur. Vu qu'on a beaucoup d'auditeurs est-ce qu'il y en a qui peuvent nous appeler qui sont choqués à chaque fois?
Jérôme.
Oh, les pauvres, ils viennent choqués. Ils sont choqués quand même.
Regarde, j'ai deux types de réactions. Excuse-moi, Daniel.
Tu pourrais très bien considérer que t'as peut-être plus envie d'entendre ça dans un stade. Ça s'entend, cet argument. Moi, je suis prêt à les entendre.
Il y a toute chose à améliorer.
Je sais.
Sans déconner.
Mais là, on parle de ça.
Deux sortes de réactions. Dama Cage qui me dit, regarde, ce n'est pas parce que ces chants existent depuis longtemps et que c'est culturel qu'on ne doit pas les condamner.
Il a raison.
On condamne bien les chants racistes. Moi, j'en ai ras-le-bol d'aller au stade, d'entendre des enculés, PD, etc.
Le chant raciste, il y a 20 ans ou il y a 25 ans, certains auraient pu dire de la même façon, c'est folklorique, c'est parce qu'ils se chambrent entre eux, Italie, mecs du Nord et mecs du Sud, qui traitent comme des paysans et tout, ou des choses comme ça. Donc, moi, en fait, ce que je veux à chaque fois, c'est qu'on soit concret.
J'ai une autre réaction, Daniel. J'ai par exemple Gel Gava qui me dit le foot est notre boys club. C'est le seul endroit où on est encore à l'abri des lobbies insupportables. Laissez-nous tranquille. Donc, il y a les deux réactions existent.
Il y a beaucoup. Franchement, dans ces champs-là de supporters, et je l'ai vécu parce que moi, les premiers matchs quand j'étais gamin, j'étais dans ces gros groupes de supporters.
Et ça te faisait marrer.
Voilà, et ça te faisait marrer. Je le prenais pas au premier degré. On était là, c'était pour allumer l'adversaire, c'était pour le chambrer. C'est comme ça, c'est le football. Alors oui, ça peut choquer des assos. Ok, pas de problème. Mais la ministre des Sports, non mais s'il vous plaît. Arrêtez, il y a d'autres choses à améliorer, d'autres choses à changer.
Alors déjà, il y a à réduire tout ce qui est acte violent. Tu peux avancer sur un tas de dossiers. Et celui-là... si moi elle trouve un moyen,
mais qu'est-ce que tu as trouvé comme...
Non mais je sais que c'est pas possible. Mais si elle trouve le moyen de dire, on va identifier le mec qui chante et tout quand ils sont 1000 à le faire, je pense que ça va être compliqué.
Tu sais que s'ils veulent combattre ça,
là où on n'avance pas, c'est par exemple pour choper au Vélodrome le mec qui a jeté le pétard et qui aurait pu crever les oreilles de Strootman, ou un truc comme ça, parce que les stades et les clubs ne font pas en sorte d'installer les caméras comme c'est dans le règlement de la Ligue.
Là, ça, même pas un groupe, ça c'est première étape. C'est même pas les groupes des supporters, ça, en plus.
Bien sûr. Bien sûr. Ça, donc, ça, c'est important, c'est déjà de choper ces mecs-là qui a un chant raciste et que tu peux parfaitement identifier. Quand tu peux identifier le mec, chope-le, condamne-le. Mais là, sur 2000 mecs qui vont chanter de cette façon-là. Alors si je peux le déplorer, je le déplore.
Non mais bien sûr,
ça va quand même être très compliqué.
Jérôme, mais après on fait une pause et ensuite on aura Michel qui veut réagir.
S'ils veulent combattre ça, moi je te dis, c'est la mort des supporters, c'est la mort des ambiances. Déjà, il y a très peu de stades où il y a encore des ambiances, parce que mine
t'as
de rien...
T'as plein de sports où t'as de l'ambiance et t'as pas forcément ce genre de chant. Hein,
non, il y a aussi des stades où il y a l'ambiance.
Dans le football, c'est comme ça. Dans le football, c'est comme ça. Et je... Quoi? De quoi?
Bah,
redis-moi ce que tu m'as dit.
Il y a aussi des stades où il y a de l'ambiance où il n'y a pas ces chants-là.
Oh, mais toi. Bah, alors,
t'es pas obligé de mettre l'ambiance en disant enculé.
Non, mais c'est pas que ça. Non, mais vous retenez un chant. Ils ont pas fait ça tout le match. Je suis désolé.
Mais non,
j'y étais au match. J'y étais. Ils ont pas fait ça tout le match.
Non, c'est ça, on est d'accord.
Encore non, on a le droit de déplorer l'instinct primaire d'arriver, tu es enculé.
Mais oui, mais c'est, mais,
voilà, on peut trouver ça. Ça fait partie du foot.
C'est comme
mais
ça.
Mais je sais, mais c'est
et
pas
tu
parce
peux
que
pas combattre ça. Si, la seule chose où on peut combattre, c'est des spectateurs qu'on va avoir. Ça sera plus des supporters, ça sera des spectateurs. Si tu veux une ambiance de cathédrale dans les stades, mais allez-y, combattez.
Tu vas d'un extrême à l'autre.
Et on revient, on continue le débat, puisque Michel veut réagir. Beaucoup d'appels au 32-7 ont parlé de ce sujet. Et puis les drôles de dames. Et puis, on va parler de vos pieds, messieurs les footballeurs. Dans quelques minutes également dans l'after, bougez pas. On revient tout de suite.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jérôme Rotener, Daniel Riolo est là, un point score, Arnaud Valadon, les matchs sont terminés?
Tout est terminé.
Ah, oh là 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 là, attends, on est concentré. Non,
mais là, faut que tu fasses vite parce qu'on a un gros sujet là.
Donc, qualification, voilà. L'Euro 2020, l'Espagne s'est imposée face à match.
Ils sont qualifiés déjà?
De Morata, non, les qualifications. L'Espagne, seule en tête de son groupe, la Norvège et la Suède dans un match complètement fou, on fait 3-3 au final. La Roumanie a battu les îles Féroé 4-1 doublé de Claudio Cheru. Le groupe J, c'est l'Italie qui a battu largement le Liechtenstein 6-0. À noter le but de Marco Verratti. Là, l'Italie est seule en tête de son groupe. La Bosnie et la Grèce ont fait 2-2. Pjanic buteur avec la Bosnie mais expulsé à la 65e. Plutôt, la Finlande a battu l'Arménie 2-0. Le groupe D, la Suisse et le Danemark font match nul 3 partout. La République d'Irlande bat la Géorgie 1-0. L'Irlande seule en tête de son groupe. Les matchs amicaux, l'Argentine a battu le Maroc 1-0, but de Correa à la fin de la rencontre. Le Brésil a battu la République tchèque, Firmino, Gabriel Jesus par deux fois. Thiago Silva et Marquinhos étaient titulaires et même Thiago Silva a récupéré le brassard de capitaine à la fin de la partie. Les autres matchs amicaux, l'Algérie, la Tunisie s'est terminé 1-0 pour l'Algérie. Le Sénégal a battu le Mali 2-1, but de Mané, but de Konaté, la Minois. La Côte d'Ivoire a battu le Libéria 1-0, Kodja sur penalty. Le Nigeria a battu l'Égypte 1-0 et puis on peut rajouter le Japon qui a battu la Bolivie 1-0 et la Colombie de Falcao s'est inclinée face à la Corée du Sud 2-1.
Japon-Bolivie, c'était pas obligé, mais t'étais complet. Merci Arnaud.
T'étais nickel celui-là, toi.
Ouais, celui-là, ouais.
Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir Gilbert.
Alors tu voulais réagir à notre débat là sur sur les chaînes supporters. Tu es supporter de l'OM, on t'écoute.
Ouais, je suis marseillais. Écoute, je voulais te réagir parce que franchement, quand j'ai entendu Jérôme, j'ai halluciné. Il a dit, s'il y a quelqu'un qui est supporter depuis 20 ans et qui est toujours choqué, qu'il appelle. Écoute, Jérôme, ouais. Moi, j'allais au stade, j'allais voir Magnusson et Skoblar. Mon père, il m'amenait quand j'étais petit. Donc, tu vois, ça date.
Ouais, ça date.
Je suis de plus en plus choqué. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour deux raisons. D'abord, parce que quand je vais au stade, que ce soit à Marseille, j'habite à Paris depuis 30 ans, donc je souffre quand je vais au stade, mais j'y vais souvent parce que j'aime le football. Quand je vais à Marseille et que je vois Valbuena qui revient et que j'entends 10 000 personnes, Jérôme, 10 000 personnes qui chantent Valbuena, tu es un PD, il faut le tuer, et ils chantent ça pendant une demi-heure, moi je te prie de croire que ça me rend dingue. Et je suis marseillais et toute ma famille est marseillaise et je suis fou. Et quand je vais au parc et que à toutes les deuxièmes mi-temps, il y a le chant classique qui est à toutes les deuxièmes mi-temps de tous les matchs, où les supporters d'Auteuil, parce que je suis côté Auteuil quand je vais au stade, chantent les Marseillais, c'est des PD, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Et quand moi je me retourne et que je vois une petite fille de 6 ans, de 10 ans, ou un petit garçon de 10 ans qui chante avec son père, les Marseillais, c'est des PD, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais moi, ça fait 50 ans que je vais au stade, mais Jérôme, je suis fou quand j'entends ça. Je suis dingue.
Ben ouais, non mais moi j'aime bien ton témoignage, Michel. S'il y avait un moyen de changer ça, je suis.
Mais franchement, et alors Jérôme, il y a aussi un autre truc.
Vas-y.
C'est que la vie, elle a changé. Moi, quand j'allais au stade et que j'entendais Oh, ils sont culés, que j'avais 12 ans et que j'avais 20 ans, c'était encore les années 70. Mais putain, la société, elle change, Jérôme. Ok. Donc, à un moment donné, le stade, il peut pas être juste à l'abri des évolutions. Et c'est pas que des mauvaises évolutions. C'est qu'à un moment donné, qu'il y ait un peu moins d'homophobie, ça fait peut-être pas de mal. tu vois. Et on n'est pas obligé de chanter Balbuena, c'est un PD, il faut le tuer.
Non, mais, mais quand c'est ciblé, je te rejoins, ce que
mais
je veux dire.
Moi,
ce que je veux dire, c'est que sur un joueur, moi, je l'ai vécu aussi, vu que
mais
j'ai
fait. Pas sur un joueur,
tu me parles de Balbuena.
Non, mais attends, je te parle du parc, alors. Oublie Balbuena. Je parle du parc. Tous les matchs au parc. Ouais, les Marseillais, c'est des PD, c'est à ça qu'on les reconnaît.
Ouais, mais bon, c'est
10 000 personnes. Et c'est des enfants, mais
non,
moi,
mais
j'ai
d'accord.
Vu des
non, non, mais
flics,
mais que ça, ça te choque. Après, malheureusement, c'est vrai que c'est comme ça depuis des lustres.
Non, mais Michel enfin, dit qu'il l'entend au Vélodrome, on l'entend dans tout, c'est dans tous les stades. Qu'on dit, malheureusement, c'est la culture du sport qu'on aime, c'est celle-là.
C'est celle-là, elle est comme ça. Donc la changer, ça va être très très compliqué. Non, mais c'est vrai. Mais je te
Ah non, mais nous on aimerait bien Michel, mais
Michel, moi je te dis juste, j'entends et je comprends que tu sois choqué quand tu vois une gamine de 6 ans qui chante ces chants-là derrière toi, ça me paraît logique, encore plus que quand toi tu te sens visé parce que t'es Marseillais. Donc d'autant plus.
Mais non, mais c'est au-delà de ça.
Non, mais
très bien.
Mais non, parce que il faut le prendre aussi au second degré, c'est difficile de le prendre au second degré. Non, mais je sais, non mais
aujourd'hui,
mais là je te rejoins.
Elles ont changé. Ah,
je te rejoins dans la vie de tous les jours, je te rejoins à 100%. Dans un stade, il y a encore ce second degré, mine de rien, parce que c'est comme disait Daniel, et moi je te le dis,
c'est difficile.
C'est dans la culture du foot, elle est comme ça. Et pour la changer, ça me paraît très compliqué.
Les Anglais, ils ont une espèce de, justement, de second degré, ils sont capables de sortir des chants qui sont très drôles, et qui pour la plupart ne sont pas insultants. Ou c'est plus du chambrage, voilà.
Et alors,
Julien Laurent, c'est là. On va lui poser la question dans quelques instants. Il pourra nous raconter ça. Mais les Anglais ont su faire une mue.
Non,
il y a des sanctions.
Attends, il y a jamais d'insultes. Il y a jamais d'insultes en Angleterre.
Merci, Non, mais un dernier mot.
Bah, Jérôme, pour conclure.
Il y a des gens. Pour conclure, Jérôme, c'est aussi. Tu es un influenceur. Donc tu peux pas te contenter de dire c'est la culture, c'est comme ça, on peut plus rien y faire. En tant qu'influenceur, t'as aussi un rôle. Toi, voilà. Parce que je t'aime bien, je t'écoute.
Non, mais
je. Donc, voilà. Ouais. C'est tout.
Non, mais t'as tout à fait raison, et moi je suis pas là pour cautionner ce genre
de tribunes mortes.
Exactement.
Ça,
je pense qu'aujourd'hui pour essayer
merci Michel,
pour combattre ce genre de
en Angleterre ces dernières semaines.
Non mais attends,
il y a une recrudescence.
Non mais ça me fait rire parce que l'Angleterre, tu prends l'exemple
l'histoire des mecs qui font l'avion contre Salah,
mais des insultes,
on en parle même.
Tu trouveras toujours des épiphénomènes.
Mais tu crois que quand Mourinho il allait dans les autres stades, alors peut-être qu'il cherchait, on va le dire, mais tu crois qu'il prend quoi comme insulte?
Attends,
franchement, il y a pas qu'au Parc des Princes. Moi, ce qui me dérange d'autant plus.
Ça, Jérôme.
Non,
que personne a dit que c'était qu'au parc.
Mais moi, quand j'apprends quand même, et je le sais, que la ministre, mine de rien, son mari, il est grand fan de l'Olympique de Marseille, tu peux te poser des questions aussi. Parce que dans les stades, elle y a mis les pieds au stade Vélodrome aussi. Donc elle a entendu ce genre de chant, non? J'ai jamais entendu, bizarre.
Bah elle était présente
nous le dise, qu'elle vienne s'expliquer. Pourquoi?
Allez, dans quelques instants, on est de retour. Julien Laurent, Simone Rovera, le podologue de l'OM avec nous. Là, on va changer complètement de sujet, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Un petit Fred Hermel également en passant. Et puis l'équipe type et l'équipe pipe de retour ce soir. Ce soir, attention, on a un gros client. Le speaker historique du Stade Brestois. Le gars a bossé,
je peux te le dire.
Alors là, attention, c'est Jackie. Et là, c'est du lourd.
Jackie Le Gall.
Ce sera tout à l'heure dans l'after.
RMC, l'after foot.